Chapitre 3. La chasse au Judson. octobre. Hier et avant-hier, je n'ai rien fait. Samedi, après un long déjeuner, j'ai relu une seconde fois les lettres de Mrs. Rebecca et employé ma matinée à chercher des parcelles d'informations qui auraient pu m'échapper à la première lecture. Mais je n'ai rien trouvé d'important. Si estimable que m'est toujours paru le fondateur de la fraternité wesleyenne, j'en avais par-dessus la tête de ses vertus, de ses discours, de ses voyages, de ses assemblées religieuses et de ses prières en commun. Dans l'après-midi, je suis allé flâner dans la ville. Je me suis adressé à plusieurs hôtels, à l'effet de découvrir si par hasard le capitaine n'y avait pas logé. Je suis allé à la gare, j'ai assisté au départ d'un train. J'ai passé une demi-heure dans la boutique du meilleur marchand de tabac de la ville, dans l'espoir d'y rencontrer mon élégant patron, qui a l'habitude de s'offrir tous les jours 2 cigares extra. S'il est encore à Ullerton ou non, je ne saurais le dire, mais il ne vint pas chez le marchand de tabac, et je dus me replier sur mon hôtel après avoir perdu ma journée. Cependant, je ne pense pas que George ait à se plaindre de moi, car j'ai rudement travaillé pour 25 shillings par semaine, et je me suis voué à cette affaire avec une somme d'enthousiasme dont je ne me serais jamais cru capable, excepté pour... Je suis allé à la messe du dimanche matin, et je me suis plus pieusement incliné que je n'ai coutume. Car bien qu'un homme vivant des ressources de son esprit ne soit pas fatalement un païen ou un athée, il lui est fort difficile d'être tout à fait bon chrétien. Même ma piété d'hier n'a pas été très édifiante, car pendant le sermon, mes pensées vagabondaient à qui mieux du côté de Charlotte. Dans l'après-midi, j'ai lu les journaux et j'ai sommeillé au coin de la cheminée de la salle à manger, pensant toujours à Charlotte. Le soir, tard, j'ai été me promener dans les rues, songeant quel pauvre être abandonné j'étais. Allons, voilà que je me plains encore. Cet après-midi, nouvelle lettre de Sheldon. Elle m'ouvre un nouveau champ d'exploration dans le territoire souterrain du passé. Cet homme a une merveilleuse aptitude pour ce genre de travail. Il a par ailleurs une expérience acquise par 10 années d'un succès. Un pareil homme doit réussir tôt ou tard. Sera-ce pendant que je suis son allié? Je suis disposé à en douter. Je me regarde comme un être dépourvu de chance, qui porte malheur aux autres comme à lui-même. La lettre de Sheldon révèle une grande subtilité d'esprit. Elle est plus longue que la précédente. Je la retranscris ici en entier, voulant faire de ce rapport un résumé complet de tous les faits relatifs à l'affaire Haygarth. Gray's Inn, dimanche soir. Cher Hawkehurst, j'ai reçu vos copies de lettres et elles me paraissent choisies avec beaucoup de discernement, en supposant toutefois que rien ne vous ait échappé dans l'examen des autres. Il sera bien du reste de m'envoyer le surplus. Vous pourrez prendre note de tout ce qui pourra vous servir à vous-même, mais autant que les originaux soient entre mes mains. Je trouve un point très important dans la première lettre que vous avez choisie, l'allusion à une maison dans John Street. Nous retrouverons peut-être quelque chose de son existence dans le voisinage. Je commencerai mes investigations aux alentours, et si j'ai la bonne fortune de tomber sur un centenaire qui est encore sa tête, je puis arriver à quelques découvertes utiles. Il y a près de la prison pour dettes plusieurs hospices dont les pensionnaires atteignent à des âges qui rappellent ceux du Pentateuque. Peut-être pourrais-je rencontrer là quelques citoyens qui se rappellent quelques contemporains de Matthew. Londres était à cette époque aussi grand qu'aujourd'hui et les hommes passaient leur vie entière dans un ministère, ce qui leur donnait tout le loisir nécessaire pour s'occuper des affaires de leurs voisins. Ayant maintenant une sorte de guide pour me diriger dans mes recherches sur la jeunesse déréglée de Matthew, j'en suivrai la trace avec le plus grand soin. Je poursuivrai mon enquête métropolitaine pendant que vous continuerez vos investigations provinciales, et agissant simultanément, nous pouvons espérer aboutir avant peu. Pour ce qui vous concerne, je suis d'avis que vous alliez de l'avant sur la piste de la branche des Judson. Vous devez vous rappeler que l'unique sœur de Matthew était une Mrs. Judson de Ullerton. Je préférerais trouver un héritier légal venant en ligne directe de Matthew, et ma théorie sur ce point vous est connue. Mais si nous échouons dans cette direction, nous serons bien obligés de nous retourner vers les Judson, qui forment une ligne désespérément compliquée, laquelle exigera peut-être la moitié d'une vie d'homme pour être démêlée, sans compter que d'autres que nous peuvent avoir entrepris la même besogne. Il faut que vous tentiez de découvrir quelques descendants des Judson, afin de mettre la main sur des preuves nouvelles, anciennes lettres, inscriptions sur de vieux livres, etc. Que Matthew eut un secret, cela est certain, et qu'il ait été disposé à le révéler à ses derniers moments, cela est non moins certain. Qui peut savoir s'il ne l'a pas confié à sa sœur unique ? Vous avez agi avec tant de perspicacité jusqu'à ce moment que je ne crois pas utile de vous fatiguer par d'autres suggestions. Lorsque l'argent sera nécessaire, j'y pourvoirai, mais je dois vous demander d'en être très économe, car je ne puis emprunter qu'avec de grands sacrifices, et si cette affaire venait à ne pas réussir, je serais inévitablement ruiné. Votre, etc., G. S. Mon ami Sheldon est un homme qui n'est jamais plus que « votre etc. » pour le reste de l'humanité. Je suppose que ce qu'il appelle « ruine » serait simplement un tranquille passage devant la cour des faillites et le transport de son cabinet sous d'autres cieux. Je ne puis imaginer que cette ruine soit une catastrophe effrayante pour un homme qui a pour tout bien une demi-douzaine de mauvaises chaises de crin, deux vieux pupitres et un pauvre tapis de Turquie en loques. La chasse aux Judson est une chose aisée, si je la compare à la tâche de fouiller le passé pour y retrouver la trace effacée des pas de feu Haygarth. Si la famille Haygarth paraît être une race éteinte, la branche des Judson a cru et s'est multipliée. Et dès le début, j'ai été arrêté par un encombrement de richesses sous la forme d'une demi-page de Judson dans l'annuaire de Ullerton. Savoir si je devais m'adresser à Theodore Judson, avocat, ou au révérend James Judson, curé de Saint-Gamaliel, ou me diriger en premier chez Judson et compagnie, mercier et marchand de draps, ou chez Judson et Grinder, filateur de bourre de soie, c'était là la grande question. En m'informant auprès de mon hôte au sujet des antécédents de ces Judson, je découvris qu'ils sortaient d'une source commune et avaient tous dans les veines du sang du vieux Jonathan Haygarth. Les Judson étaient autrefois une famille obscure, des gens du peuple, me dit mon hôte, jusqu'au moment où Joseph Judson, boutiquier et marchand de draps de bas étage, eut la chance de conquérir le cœur de Ruth Haygarth, fille unique du riche épicier non-conformiste de la place du marché. Cette Ruth étant la sœur de mon ami Matthew Haygarth. Ce mariage a été le point de départ de la prospérité de Joseph Judson. Le vieil Haygarth a soutenu son industrieux et honorable gendre dans le chemin pierreux qui mène à la fortune. Plus d'une fois, sans doute, il a dû lui venir en aide. Les renseignements de mon hôte étaient aussi vagues que le sont en général les renseignements, mais il était facile néanmoins d'en conclure que les membres de la famille actuellement bien posée des Judson avaient tous profité dans une certaine mesure de la fortune laborieusement acquise par Jonathan Haygarth. Presque tous ont trouvé le moyen d'ajouter à leur nom celui de Haygarth, continua mon hôte. Judson, de la maison Judson et Grinder, s'appelle Thomas Haygarth Judson. Il est membre de notre club du commerce et il est riche à 100 000 livres. J'ai remarqué à propos que, dans les villes de province, un riche commerçant n'est jamais censé posséder moins de 100 000 livres. Cela paraît être la mesure habituelle de l'ambition commune. Il y a encore J.H. Judson, de Saint-Gamaliel, continua mon hôte, qui est James Haygarth Judson, puis le jeune Judson, le fils de l'avocat, qui met sur ses cartes Haygarth Judson, et permet volontiers qu'on l'appelle de ce nom, ce qu'on lui refuse généralement, parce qu'il se donne des airs. Le bruit court que son père est héritier légal d'un million en argent laissé par le dernier des Haygarth, et que lui et son fils ont intenté une action contre la couronne pour réclamer cet héritage. Mais j'ai entendu le jeune Judson nier le fait, un jour qu'on lui en parlait dans ma salle à manger, et je ne pense pas que ce bruit soit bien fondé. Je suis fâché de l'apprendre. Monsieur Judson, l'avocat, ne serait pas un adversaire insignifiant. Je sentis que je devais me tenir à l'écart de Théodore Judson, l'avocat, et de son présomptueux fils, à moins que les circonstances ne m'obligeassent à marcher en accord avec lui. En même temps, je pensais que tout ce que je ferais pour me rapprocher des autres Judson m'amènerait fatalement à connaître ces membres particuliers de la famille. « La famille Judson est très unie ?» demandai-je insidieusement. « Ma foi, oui et non. La plupart sont cousins au troisième ou quatrième degré, voyez-vous, et cela n'est pas une très proche parenté dans une ville où il ne manque pas de concurrence et d'intérêts opposés qui nous divisent. » Le jeune Théodore Haygarth Judson, comme il s'appelle lui-même, est intime avec Judson de Saint-Gamaliel. Ils ont été au collège ensemble, voyez-vous, et ils se donnent de l'importance parce qu'ils ont passé 2 ans à l'université de Cambridge. Ces deux-là s'entendent très bien, mais Judson, le filateur, ne parle ni à l'un ni à l'autre lorsqu'il les rencontre dans la rue, et il s'est souvent mal exprimé sur leur compte dans ma salle à manger. William Judson est de la religion dissidente et il vit replié sur lui-même. Les autres Judson sont trop fiers pour lui. Cependant, je ne vois pas ce qu'il y a de compromettant à prendre 1 ou 2 grog avec des amis, ajouta mon hôte d'un air rêveur. Ce fut chez William Judson, le dissident, le solitaire, que je résolus de me présenter d'abord. Comme dissident, il aurait probablement plus de respect que tout autre pour la mémoire du non-conformiste Haygarth, et aurait conservé les traditions qui se rapportaient à lui avec plus de soin que les autres membres, anglicans et frivoles, de la famille Judson. De plus, vivant replié sur lui-même, il serait moins bavard. Je ne perdis pas de temps pour me présenter à la maison de commerce, et après avoir remis au domestique la carte de George, en m'annonçant comme venant pour une affaire qui concernait la famille Haygarth, je fus immédiatement introduit dans un comptoir très propre. J'y vis un petit vieillard très vivant, très actif, vêtu d'un habit de drap fin avec une cravate de batiste et un jabot blanc comme neige. Il me reçut avec une politesse un peu surannée. Je fus enchanté de voir qu'il avait au moins 75 ans. Je l'aurais été plus encore si je l'avais trouvé plus vieux. Mr. Judson, le drapier, était un personnage tout autre que le révérend Jonas. Il me questionna avec beaucoup d'attention sur les motifs qui me poussaient à vouloir être renseigné sur le défunt Haygarth. J'éprouvais quelque répugnance à faire de la diplomatie avec lui comme avec Goodge. Tromper le malin Jonas était un triomphe, mais duper le confiant drapier était chose presque honteuse. Néanmoins, je ne m'écartais pas plus de la vérité qu'un avocat ou un diplomate. Judson accepta mes explications avec une complète simplicité et parut fort satisfait d'avoir une occasion de parler des Haygarth. « Vous n'êtes pas engagé dans la tentative pour soutenir les prétentions de Théodore Judson à la réclamation de l'héritage du dernier Haygarth, hein ?» me demanda tout à coup le bonhomme, comme soudainement frappé d'un oubli. Je l'assurai que les intérêts de Théodore Judson et les miens n'avaient absolument rien de commun. « Je suis content, » répondit le drapier. « Non que j'aie le moins du monde à me plaindre de Théodore Judson, entendez-le bien, encore que ses principes et les miens diffèrent considérablement. Je me suis bien laissé dire que lui et son fils espèrent faire valoir une prétention à cet héritage. Mais ils n'y réussiront pas, monsieur, ils n'y réussiront pas. » Il y avait ici autrefois un jeune homme qui est parti pour l'Inde en 1841, un libertin, un débauché, monsieur, qui cherchait toujours à emprunter de l'argent sous prétexte qu'il voulait se mettre dans les affaires et faire honneur à sa famille, ou bien pour avoir de quoi se coucher ou dîner. Mais ce jeune homme était l'arrière-petit-fils de Ruth Haygarth, et si cet homme est encore vivant, c'est lui qui doit régulièrement hériter de la fortune de John Haygarth. S'il vit encore ou s'il est mort, c'est plus que je ne puis dire, attendu qu'on n'a plus jamais entendu parler de lui à Ullerton depuis qu'il l'a quitté. Mais jusqu'à ce que Theodore Judson puisse fournir des preuves légales de la mort de cet homme, il n'a pas plus de chance d'avoir un sou de la fortune de Haygarth que je n'en ai d'hériter de la couronne d'Angleterre. Le petit vieillard était monté jusqu'à un léger ton de colère avant d'avoir achevé, et je pus voir que les Theodore Judson étaient aussi impopulaires dans le comptoir du drapier qu'ils l'étaient à l'hôtel du Cygne Noir. « Et quel était le nom de baptême de cet homme ?» demandai-je. « Peter. Il s'appelait Peter Judson. » Et il était l'arrière-petit-fils de mon grand-père Joseph Judson, qui habitait cette maison même, monsieur, il y a plus de 100 ans. Attendez un peu, Peter Judson devait avoir environ 25 ans lorsqu'il a quitté Ullerton. De sorte que c'est à présent un homme entre deux âges, s'il ne s'est pas tué ou si le climat ne l'a pas tué il y a longtemps. Il est parti comme subrécargue sur un navire marchand. C'était un garçon intelligent, capable de travailler lorsqu'il voulait s'en donner la peine, malgré sa vie dissipée. Theodore Judson n'ose pas publier d'annonce pour se procurer la preuve de la mort de Peter, dans la crainte de faire surgir d'autres réclamants. Ce fut sur l'animosité inspirée par les Theodore Judson que je crus devoir me diriger dans mon entrevue avec le vieux drapier. Je regrette de ne pas être libre de vous expliquer la nature de mon affaire, dis-je d'un ton tout à la fois insinuant et confidentiel. Mais je pense pouvoir prendre sur moi, sans manquer à la confiance de celui qui m'emploie, de vous assurer que, quelle que soit la personne à laquelle reviendra l'argent du révérend John Haygarth, ni Mr. Judson, l'avocat, ni son fils ne mettront le doigt sur un sou. « Je ne suis pas fâché de l'entendre, » répondit Judson, enchanté, « parce que le jeune Théodore est complètement indigne d'une pareille bonne fortune. Un jeune homme qui passe à côté de ses parents dans les rues de sa ville natale, sans avoir la simple courtoisie due à l'âge et à la respectabilité, un jeune homme qui se moque d'une fortune acquise dans un honnête commerce, un jeune homme qui appelle ses cousins « sauteurs de comptoir » et ses oncles et tantes « momies », un tel jeune homme n'est pas digne de devenir riche. » Et je vous dirai franchement que j'aimerais mieux voir n'importe qui hériter de cette fortune plutôt que Théodore. Croirez-vous, mon cher monsieur, qu'on l'a vu dans cette même rue se promener en tandem? Je voudrais bien savoir combien de chevaux il mettrait à son tilbury ou quelles avanies il ne ferait pas à ses parents s'il avait à sa disposition 100 000 livres. Pour la seconde fois, Judson s'était indigné. La conversation fut interrompue pendant quelques minutes. Il se remit un peu. « Je vais vous dire ce que je ferai pour vous, Mr. Hawkshell, » dit-il, mêlant ensemble mon nom et celui de Sheldon. « Je vais vous donner un petit mot d'introduction pour ma sœur. S'il est quelqu'un qui puisse vous aider à chercher dans le passé, c'est bien elle. Elle est plus jeune que moi, de 2 ans, étant âgée de 60 ans, et aussi active qu'une jeune fille. » Elle a passé toute sa vie à Ullerton. C'est une femme qui collectionne tous les bouts de papier qui lui tombent dans les mains. Si de vieilles lettres ou de vieux journaux peuvent vous servir, elle en a beaucoup en magasin. » Sur ce, le bonhomme écrivit un billet qu'il sécha avec de la poudre renfermée dans une bouteille dont le dessus était percé de trous. Pourvu de cette épître antique, écrite sur beau papier et scellée avec un grand cachet carré formé d'un petit monument en cornaline que le drapier portait à sa chaîne de montre, je partis pour aller trouver Miss Hezekiah Judson.